Alors, il y a quelques temps de ça, autour de la Bible, on a commencé la formation Tous Témoins. On n'était pas nombreux à suivre cette information. Et donc, je vous propose une petite séance de rattrapage. Alors, je vais faire un... Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long de dérouler toute la formation. Bon, il faut bien une heure et demie. Mais là, on va faire quelque chose de compact que je vais résumer ce qu'avait dit l'enseignement du frère. Alors, c'est Paul Monclerc qui va faire ça. Paul Monclerc, ben, il est du coin. Il est à... il est toujours à Montastruc. Oui, non, il est...
À ma connaissance, il est encore à
Montastruc. Il est toujours à Montastruc, donc sauf dans la région de Toulousaine. Donc, on a beaucoup de plaisir à... Donc, l'objectif de la formation, hein, c'est de nous aider à être des témoins dans une société sécularisée, c'est-à-dire... Vous le savez très bien, notre société a tourné le dos à Dieu. Tout le monde me dira que ça lui pose bien des problèmes. Mais pour le moment, c'est comme ça.
En quoi le message de l'Évangile
vous permet-il de transformer la vie, celle qui nous entoure? Et quel style de vie adopter pour avoir un témoignage pertinent sans pour autant en déformer le message? Dans ce premier module, Christelle Lamère Nyangui, Léa Richel et Jean-Christophe Jasmin, face à l'indifférence, la méfiance, voire l'hostilité à l'égard de l'Évangile, quelle est notre place et notre rôle de témoin aujourd'hui? En quoi le message de l'Évangile bouleverse-t-il notre propre histoire personnelle et a le potentiel de transformer la vie des personnes qui nous entourent? Et quel style de vie adopter pour avoir un témoignage pertinent sans pour autant en déformer le message? Dans ce premier module, Christelle Lamère Nyangui, Léa Richel et Jean-Christophe Jasmin nous aideront à réfléchir sur notre place de témoin dans le plan de Dieu. Dans la première session, Christelle va planter le décor de notre témoignage en résumant notre appel en trois mots. Dans la seconde session, Léa nous rappellera le fondement de notre témoignage et nous aidera à expliquer l'Évangile en trois temps. Et dans la dernière session, Jean-Christophe nous donnera des pistes pour bâtir des ponts entre l'Évangile et la culture. Un programme riche en perspectives, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon temps de formation.
Voilà. Juste l'introduction de Christelle. Donc Christelle, il est...
Face à l'indifférence, la méfiance, voire l'hostilité à l'égard de l'Évangile.
Aujourd'hui, pas de passe sanitaire, pas de test médical, pas au voyage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce texte qui va être le fondement, la base de cette formation, la première lettre de Pierre, qui est une invitation au voyage. Pour ce texte que nous allons habiter tout au cours de cette formation, nous allons voir plus précisément comment l'auteur, Pierre, s'adresse aux chrétiens du 1er siècle qui ont reçu cette lettre, dans quels termes il s'adresse à eux et comment ces termes peuvent s'appliquer aux chrétiens qui vivent aujourd'hui au 21e siècle. Alors, dans quelle histoire ce texte nous place-t-il? Et quoi de mieux que de commencer par le commencement? La lettre commence par des mots qui expliquent à qui elle s'adresse. Et ce que je vous propose de faire ensemble, c'est simplement de regarder trois mots-clés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le texte d'origine. Lisons ensemble. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avaient été choisis. C'est le verset 1 du chapitre 1 de la première lettre de Pierre.
Alors, je vous invite à prendre ce texte. Et donc, je vais faire un petit résumé de tout son propos. Il a parlé donc de trois mots. Et le premier mot, c'est choisi, c'est élu, c'est dans l'ordre chronologique, c'est celui qu'on trouve. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire élu? Élu, ça veut une chose que ça ne veut pas dire. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'une élection politique. Il ne s'agit pas de l'élection d'un représentant du personnel ou un représentant de classe, un délégué de classe. Et il ne s'agit pas d'une élection sur le mérite. Hein, on élue les meilleurs produits de l'année. Hein, vous voyez peut-être des étiquettes comme ça qui ont remporté un concours hein, en quelque sorte. Non, c'est pas ça. Pour comprendre le sens des mots, c'est bien d'aller dans l'ancienne alliance. C'est là qu'on va comprendre le sens des mots qui sont utilisés dans la nouvelle alliance. Et dans l'ancienne alliance, vous le savez, Israël est le peuple élu. Et c'est bien de cette élection-là dont il est question. Abraham a été appelé à quitter son pays pour se rendre dans un pays que Dieu allait lui montrer. Être élu, c'est être appelé par Dieu hors de quelque chose. C'est se mettre en chemin dans une direction suite à un appel de Dieu. Et le frère Christelle dit que c'est une redirection, être élu, c'est être redirigé. Abraham a eu deux fils, Ismaël, Isaac, on avait largement développé ça quand on avait vu à la fois l'Ancien Testament, ce passage de l'Ancien Testament, et également dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, 10 et 11. Abraham a eu deux fils, Ismaël et Isaac, et donc seul Isaac a eu une naissance qui correspondait à ce que Dieu avait promis. Et être élu, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui ne procède pas de la volonté ou du désir de l'homme, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu avait élu Isaac. Isaac était celui qui correspondait à la promesse que Dieu avait faite. Et Isaac a eu deux frères jumeaux, Ésaü et Jacob, et avant qu'ils naissent, Dieu avait choisi d'aimer Jacob et avant même quand ils n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal. On peut dire, on avait vu ensemble à ce moment-là qu'il, pour nous, de nos propres critères, il n'avait pas choisi entre les deux frères celui qui était le plus sympathique. Être élu de Dieu, c'est avoir été choisi par lui et parce que il a porté sur celui qui est élu son amour. Et dans la nouvelle alliance, donc, qu'est-ce que c'est qu'être élu? Comment une personne qui est loin de Dieu, qui pêche, qui fait le mal, comment il pourrait être élu? Dieu le Père le choisit, Dieu le... Saint-Esprit le sanctifie, l'appelle, le met en part, et Dieu le Fils fait la purification de ses péchés. C'est ce que j'ai pris dans l'ordre dans lequel on le trouve, dans la suite de notre texte. Je reprends. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, toute cette région de la Turquie actuelle, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père pour la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, et là c'était très clair, dans l'ancienne alliance, il y avait le sacrifice d'agneaux, de bétail, et le souverain sacrificateur faisait l'aspersion du sang pour la purification des péchés, la purification des lépreux, la purification du peuple. Le sang devait être répandu, le sang devait être aspergé. Et donc c'est de ça qu'il est question, et donc si nous pouvons être élus, c'est parce que Dieu le Fils nous purifie, parce que Dieu, le Saint-Esprit, nous sanctifie et parce que Dieu, le Père, nous choisit. Donc, un chrétien est un élu de Dieu et il n'y est pour rien. Donc, la doctrine de l'élection nous conduit donc à l'humilité, à la redevabilité envers Dieu et à le service pour le Seigneur. Le deuxième mot, étranger. L'apôtre Pierre écrit à des chrétiens qu'il appelle étranger. Vous êtes élu, vous êtes étranger. On pourrait traduire des migrants, des résidents temporaires dans un lieu. Ça pourrait être traduit également comme ça. L'idée de ne pas être chez soi sur la terre. Et donc là également, ça me fait penser à Abraham qui a vécu des années dans la terre de Canaan comme un étranger. Il n'y avait pas de... il pouvait que le visiter, que le parcourir de haut en large, mais il n'avait pas de demeure fixe là pendant tout son séjour jusqu'à la mort de Sarah, sa femme. Israël en Égypte, il a été également étranger, considéré comme des étrangers en Égypte. Ils sont restés là-bas 400 ans en étranger. Ils étaient dans une partie du pays, ils étaient à part des autres parce que c'était des bergers. Et pour les Égyptiens, les personnes qui vivaient avec les animaux étaient des personnes de seconde catégorie et ils ne souhaitaient pas se mélanger avec. Ils étaient abominables pour les Égyptiens. Et ils ont été 400 ans étrangers. Et quand ils sont sortis, Dieu a bien veillé à ce qu'ils se souviennent ce que c'était que d'être étrangers. Mais David, le roi David, installé dans son royaume à la fin de son règne, tout avait a priori réussi pour lui et pour le royaume d'Israël. Et voilà ce qu'il écrit en 1 Chronique 29, voilà ce qu'il dit par rapport à cette question d'être étranger. Je vous lis le discours qu'il a fait au moment de la préparation pour la construction du temple de Jérusalem. 1 Chronique 29, versets 10 à 15. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée qui avait fait des dons pour la construction du temple et il dit béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne. Car tu élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent les richesses, la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est de ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons ton nom glorieux. Car, dit David, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires. Tout vient de toi. Nous recevons de ta main tout ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme une ombre et il n'y a pas d'espérance. Éternel, c'est de toi que viennent toutes les richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Étranger sur la terre également, parce que la terre, l'univers entier appartient à Dieu, et nous y trouvons là, on a l'impression que les choses, nous possédons, on possède des maisons, on possède des voitures, on possède des choses, mais en fait, in fine, tout est à Dieu. Et on est là comme des étrangers. Alors, le chrétien, lui, n'appartient pas au monde. Il n'est pas encore arrivé dans le ciel. Il n'est pas encore chez lui sur la terre. Mais ce n'est plus non plus son pays, son aspiration. Elle n'est plus sur la terre, elle est dans le ciel. Mais il est déjà sauvé de son ancienne vie, déjà sauvé par le sang de Christ. Mais il n'est pas encore sauvé dans le sens qu'il est encore entouré dans un monde de pécheurs, tout imbibé, tout entouré de péchés. C'est ce que les théologiens appellent le déjà et le pas encore. Et on est encore étrangers, nous aussi. Étrangers, élus, étrangers sur la terre, dispersés, le troisième mot. Et ça, c'est, ça se réfère à un épisode de l'histoire d'Israël. Après l'apogée d'Israël, après David, il y a Salomon. Et Salomon, donc, après Salomon, le peuple connaît une lente et progressive décadence, jusqu'à ce que l'idolâtrie gagne tellement de terrain, le peuple n'écoute plus les avertissements des prophètes et épuise la patience de Dieu. Et Dieu décide de juger et de détruire Jérusalem. C'est en 586. Mais Avant cela, une partie du peuple que Dieu a voulu préserver a été déportée. Et ils se sont trouvés dispersés dans tout le pays, l'empire de Babylonien, dans des pays qu'ils ne connaissaient pas, dans une culture qui n'était pas la leur, et ils étaient là complètement perdus. Qu'allait-il faire ? Nous aussi, on est des raisons d'être perdus dans notre société séculière. Année après année, on a des lois qui se succèdent, et ces lois, on ne les aime pas parce qu'elles sont comme des défis lancés à Dieu. Notre société renie ses racines chrétiennes. Et on voit la violence qui monte, on voit de la colère tout autour de nous, et on se sent submergé par le péché ambiant. Jérémie avait un message pour les enfants de la déportation, pour tout ce peuple qui était dans un endroit où il ne voulait pas être. Le peuple aurait pu avoir bien des raisons à l'époque de se replier sur eux-mêmes, de s'enfermer dans la dépression, de se recroqueviller. Mais depuis Jérusalem assiégée, le prophète Jérémie écrit aux ceux qui sont dispersés de la part de Dieu. Il leur écrit de la part de Dieu une lettre, chapitre 29, versets 4 à 14. On va lire cette lettre que Jérémie rédige sous la direction du Saint-Esprit. Ésaïe, Jérémie. Pardon. Lettre aux captifs de Babylone, je vois, début du chapitre 29. Je saute l'introduction et je vais directement au verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en du fruit. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des maris pour vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Il était question bien sûr de rester entre hébreux, hein, de s'allier par mariage avec les populations babyloniennes. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, là où ils sont, à Babylone, loin de Jérusalem, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu a suscité des prophètes à Babylone. Voilà tout ce passage, et voilà qui devait être très encourageant pour ces dispersés. Ça y est, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ils savaient qu'ils étaient là pour un certain temps, mais pas pour toujours. Et donc, à la fois, ils devaient occuper, multiplier, infuser toute la société où ils se trouvaient, en sachant qu'ils ne s'étaient pas là pour toujours. C'était pas, ils restaient des étrangers, ils resteraient des étrangers. Et ils resteraient aussi le peuple choisi, élu, étranger, et dispersés. Jésus nous a laissé à nous aussi un message avant de partir. Hein. On connaît Matthieu 28, 16 à 20. On peut lire ce passage. Je peux l'apprendre par cœur. Bon, surtout le verset 20, mais je vais commencer à chapitre 16. Après sa résurrection, les onze allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils la virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes, et Jésus s'étant approché leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a quelques paroles qui ont été ajoutées par le Seigneur, qui sont rapportées par Luc, après une question des disciples qui se trouvaient là, au début du livre des Actes, pardon, Actes chapitre 1. Donc, comme ils se trouvaient avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner, d'attendre le Saint-Esprit. Et verset 6, les apôtres dirent ô Jésus, Seigneur, est-ce que dans ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Ça s'est produit à la Pentecôte, c'est quelque chose qui est accompli et qui est valable pour tous les chrétiens. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre dispersée. Pierre écrit à des chrétiens qui sont dispersés, mais la différence avec Israël, c'est que nous, on n'a pas les 70 ans, on ne peut pas compter les années, on ne sait pas, mais avec la même idée, on doit avoir la même idée qu'eux. Je m'installe, mais je ne suis pas de la terre. Je ne m'installe pas, je suis un résident temporaire. Et je ne fais pas des projets à long terme. Mon Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Il faut qu'il me trouve fidèle, dispersé. Alors, je vais laisser à Christelle le soin de conclure ce message.
Voilà.
Je pense que beaucoup de chrétiens peuvent reconnaître cette tension, une tension similaire à celle du peuple de Dieu à Jérusalem, une idée où nous sommes assiégés, et de l'autre côté, celle du peuple de Dieu à Babylone, où nous sommes envoyés. Êtes-vous assiégés ou êtes-vous envoyés? C'est pour cela que cette lettre, au fond, s'adresse à tous les chrétiens, jeunes et vieux, hommes et femmes, salariés ou chômeurs, évangélistes ou comptables. Nous sommes tous envoyés, dispersés aux quatre coins de la France, aux quatre coins de l'Europe, aux quatre coins du monde, mais aux quatre coins aussi des mondes sociologiques, de nos entreprises, de nos associations, des établissements dans lesquels nous passons la plupart de nos journées, lorsque nous travaillons dans nos cercles amicaux, nous sommes aussi dispersés dans ces endroits-là. Et c'est ainsi que Pierre nous invite à vivre comme des immigrés choisis et dispersés de par le monde, qui sommes témoins de Jésus-Christ envoyé. Du coup, à vous et à moi, ce texte se présente comme une question. Quel est mon rapport au monde dans lequel je vis? Quel est mon rapport au monde dans lequel je vis? Est-ce que j'en suis ou est-ce que j'en suis pas? Est-ce que je joue le jeu du monde? Ou est-ce que j'ai véritablement ma place dans ce monde? Est-ce que mon travail peut être fait d'une façon qui honore Dieu, même si je suis dans un monde ou dans un contexte qui ne l'honore pas? Est-ce que je dois avoir un rôle ou un impact particulier dans ce monde? Ou bien au contraire, est-ce que ce monde n'est pas fait pour moi? Je dois m'en retirer? Est-ce que ma présence dans ce monde est une forme de souffrance à endurer en attendant d'aller ailleurs? Et si oui, bien, comment supporter cette souffrance? Ces questions et beaucoup d'autres, nous allons les explorer tout au long de cette formation. Mais voici déjà une réponse à cette invitation que Pierre nous fait, cette invitation au voyage. Cette réponse consiste à vivre conscient, conscient du fait que nous sommes choisis et unis à Jésus, conscient du fait que nous sommes des hôtes de passage dans ce monde dont Dieu est propriétaire, qui vivons en exil, et conscient du fait que nous sommes dispersés, envoyés dans divers endroits. Alors, une dernière question pour vous aider à réfléchir sur ce que vous avez appris, ce que nous avons appris ensemble, et à résumer votre pensée. Pourquoi donc Pierre parle-t-il de notre vie sur terre comme un séjour d'étranger et même d'exilé? Comment est-ce que vous répondriez à cette question? Voilà ce que je vous invite à faire pour résumer la pensée et les réflexions de cette session de formation, en vous souhaitant beaucoup de bonheur et beaucoup de bénédictions de la part de notre Seigneur lorsque vous continuez le chemin à travers la formation.
Alors voilà, nous sommes à quelques heures de notre fête de Noël, hein, 2024, version 2024. Noël est un moment difficile pour beaucoup de personnes, qu'elles soient chrétiennes ou pas. On sait que la fin d'année a été, dans les temps anciens, l'occasion de fêtes où Dieu n'était absent, et qu'elle redevient aujourd'hui une fête où Dieu est absent. Et nous sommes chrétiens, nous voulons fêter Noël, Christmas, hein, en anglais, c'est la fête où le culte de Christ est au centre. Alors, ça va être un moment de joie personnelle à l'Église, que de se souvenir de la venue comme Jésus enfant. Ça va mettre à l'honneur notre culture chrétienne, notre culture chrétienne se définit par les fruits du Saint-Esprit, les 9 fruits du Saint-Esprit que l'on peut manifester. Notre culture, c'est ça. Hein, vous les connaissez, au moins le premier, hein, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi. J'en suis à 7. Il m'en manque 2 autres, c'est dans Galates 5, 22.
La douceur.
La douceur.
La bonté.
Et la bonté, la bienveillance. Ouais.
La patience.
La patience, je l'avais dit. La bonté. C'est ça notre signature, c'est ça notre culture. Hein, c'est différent de toutes les cultures par cette signature-là que tous les chrétiens ont. Il y a 9 fruits, comme il y a 9 béatitudes également. Une vitrine pour nos concitoyens. Voilà ce que sont les chrétiens. Voilà ce que sont les chrétiens. Et d'annoncer également la bonne nouvelle de Jésus, d'être les témoins qui veut que l'on soit. Alors bon courage à chacun pour ce moment tout à l'heure. Que cela se puisse. Ça se fera, je crois, avec la pleine bénédiction de notre Seigneur. Et voilà. Et on encourage aussi les enfants qui vont être avec nous. Et ce sera super. On va prier. Seigneur, merci pour cet appel à être des témoins dans un monde où c'est pas notre monde, c'est pas notre pays, c'est pas notre culture, c'est pas notre façon de voir. Mais Seigneur, tu nous places là pour qu'on soit des témoins. Et aide-nous à le faire sans crainte, sans peur, sans se recroqueviller sur nous-mêmes, mais en saisissant les occasions que tu nous permets de l'annoncer. Et qu'on puisse encore voir, non pas nous, Seigneur, mais te voir, toi, à travers nous. Et que tu attires encore beaucoup de personnes à toi pour remplir ton royaume, qui est un royaume de joie, de fête et de paix. Merci, Seigneur. Merci également pour nos frères et nos sœurs qui vont nous aider, nous encourager, nous, qui sommes, il n'a pas dit petit nombre, mais il a dit l'apôtre et Christelle, qui sont dispersés. Dans le nom de Jésus, Amen.
Amen.